Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Nous, on est branchés, les gars, on a déjà commencé hier soir, c'était chaud, hein, ça, c'était bon. En fait, je suis très content d'avoir la possibilité de vivre ce week-end avec votre église, parce que c'est en plein dans des sujets que je suis en train de réfléchir en ce moment. Des relations profondes dans l'église, indispensables pour grandir en Christ. J'imagine que vous vous dites « Ah ouais, c'est quand même bien l'idée de dire qu'on a de bonnes relations dans l'Église, etc. » Mais je pense qu'on ne se rend pas compte de l'importance de ces relations dans l'Église. Vous allez voir. Est-ce que cette publicité vous dit quelque chose? Est-ce que vous connaissez la pub, là? Hein? Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que l'Église peut reprendre cette pub pour elle? Venez comme vous êtes, chez McDo. Est-ce que vous diriez oui? Oui, on peut venir tel qu'on est. Mais pas seulement. Parce que on peut dire venez comme vous êtes, parce qu'on a tous chanté tel que je suis, je viens à toi, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et on a partagé la scène ce matin, donc on sait qu'on peut venir comme on est. Mais on peut pas rester comme on est. Parce que ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Donc on vient comme on est, mais l'objectif de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et comment est-ce que Dieu va nous transformer à l'image de Jésus-Christ, puisque c'est le but, notre raison d'être même? Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les trois premiers versets de la première épître aux Corinthiens. Vous allez les trouver. Si vous avez un téléphone, alors vous cherchez second 21, la version, vous aurez la même que moi. Sinon, vous ouvrez votre bonne vieille Bible solide et ça marche aussi. Je lis. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont tout compris, levez la main. Un peu compliqué, hein? Vous êtes d'accord avec moi? On comprend pas très bien ce que notre ami Paul veut dire. Alors je vous propose la version, vous pouvez regarder derrière moi, la version Parole Vivante. Elle est un peu plus en français. Et après, on va faire un focus sur deux points précis que Paul dit pour commencer sa formation. Paul, apôtre de Jésus, salue l'église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui se sont consacrés à Jésus-Christ et qui, dans la communion vivante avec lui, ont été appelés à mener une vie sainte en union avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà un peu plus clair. On est appelé à mener une vie sainte en union avec le Christ et en communion avec les autres. Et regardez maintenant, on peut en sortir deux points précis de ce texte, nous sommes appelés à une vie sainte. Et je pense que là, vous êtes d'accord avec moi. Mais pas tout seul, en communion avec les autres. Et avec ces deux premiers points qu'on sort de ce texte de 1 Corinthiens, vous avez une partie de mon message, et la deuxième partie de mon message, ça sera, qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Et comment est-ce que je peux développer mes relations avec les autres? Alors, premier point, nous sommes appelés à une vie sainte. Paul parle ici d'un mot qu'on appelle la sanctification. Moi, je préfère utiliser le mot transformation à l'image de Jésus. Mais c'est la même chose. Nous ne sommes pas destinés à venir tels que nous sommes et rester tels que nous sommes. Nous sommes appelés à être transformés en l'image de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que quelle est notre destinée? Nous sommes appelés à régner avec Christ. Et est-ce que vous vous imaginez assis, l'Église, vous faites partie de l'Église, à la droite de Dieu, en train de régner avec lui, avec le sale caractère que... Enfin, je vais parler pour moi. Est-ce que je peux m'imaginer, moi, assis à la droite de Christ, à régner avec lui, à juger les nations avec le sale caractère que j'ai encore? Non, je suis pas prêt. Je dois encore poursuivre ma transformation, ma sanctification à l'image de Christ pour pouvoir être en mesure de régner un jour avec lui. Le processus par lequel Dieu forme le caractère de Christ dans les croyants, par le ministère de l'Esprit, dans le contexte de la communauté, attention, dans le contexte de la communauté, hein. On va pas se former tout seul, hein. Et conformément aux normes bibliques. Ce processus implique la transformation de la personne entière dans ses pensées, ses comportements et ses styles de relation avec Dieu et les autres. Il aboutit à une vie de service aux autres et de témoignage pour le Christ. Notre transformation n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le but ultime. Nous devons être semblables à Jésus-Christ pour pouvoir lui rendre la gloire. Dieu n'est pas en train de fabriquer des petits parfaits pour les mettre dans un coin. L'objectif de notre transformation en son image, c'est de le glorifier. Et c'est que ceux qui font l'expérience de cette vie de plénitude avec lui puissent vivre la joie d'être en communion et dans l'intimité avec Christ. La promesse que nous, êtres humains marqués par le péché, pouvons réellement devenir comme Christ, est au cœur du message de l'Évangile et donc de la mission de l'Église. On n'est pas chrétien pour être sauvé. On est chrétien pour être transformé à l'image de Christ pour pouvoir régner un jour. Et comme chaque personne est unique, eh bien ce chemin de transformation va être unique. Et bien que ce soit l'Esprit qui nous transforme à l'image de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Alors je vais vous emmener faire un petit tour là pour réfléchir comment est-ce que Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ. Vous allez être surpris, mais Dieu n'utilise que 3 vecteurs pour nous former à l'image de Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'avais déjà réfléchi à ça. On pourrait s'imaginer qu'il y a plein de façons que Dieu utilise pour nous former, mais vous allez voir, ces façons se résument à 3 uniques vecteurs. Ils sont là sur l'écran, les disciplines spirituelles, les circonstances spirituelles et les relations spirituelles. Je commence. Les disciplines spirituelles. Car vous êtes morts et votre vie est cachée dans le Christ Dieu. On est tous d'accord que nous sommes vivants en Christ et que notre connaissance et notre communion et notre relation avec Dieu est très importante. Et c'est ça les disciplines spirituelles. Les disciplines spirituelles, c'est ce que je vais pouvoir pratiquer dans ma vie chrétienne pour améliorer, développer ma relation avec Christ. Vous vous rappelez ce que Paul disait ? Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété nous prépare aussi à régner un jour avec Christ. La piété est de l'ordre de l'intime. Si je ne cultive pas ma vie intérieure, elle risque de se flétrir comme une plante qui n'a pas été arrosée. Alors, comment est-ce que nous développons nos disciplines spirituelles ? Ben, je vais vous en proposer, je fais un survol assez rapide. Il y a un certain nombre de choses que nous savons très bien que nous pouvons faire pour développer notre piété. Les disciplines spirituelles, il y a les disciplines spirituelles intérieures. La méditation de la parole. J'ai dit hier soir que beaucoup de chrétiens disent « Ah, moi, avant de partir au travail, je lis Notre Pain Quotidien, je prie un coup et je m'en vais. » Ça a pris 10 minutes. Je dis, si c'est ça votre, comme ça que vous développez votre piété, vous n'avez pas eu le pain quotidien, vous avez eu des miettes quotidiennes. Ça suffit pas pour vous nourrir. Vous avez besoin de méditer la parole. Vous avez besoin de développer une vie de prière. Le jeûne. L'étude de la Bible. Hein, le jeûne, c'est pas quelque chose qui nous est très familier. Il y a quelqu'un qui, hier soir, nous a dit que lui, ça fait vraiment partie de ses disciplines spirituelles. Sois béni, mon frère. Mais on n'a peut-être pas tous cette même expérience. Ensuite, il y a les disciplines extérieures. La simplicité. Tiens, tiens, voilà quelque chose dont on parle très peu dans nos églises. Est-ce que les chrétiens doivent être se contenter de peu, vivre simplement? À l'heure où on est en train de parler de réchauffement climatique et besoin de se limiter dans les besoins de recycler, etc., est-ce que les chrétiens devraient être les premiers à dire « Moi, j'ai pas besoin de la plus belle maison. J'ai pas besoin de la plus grosse voiture. » On est en train d'aménager une maison plus petite pour ma femme et moi, pour nos vieux jours. Et on a dit « Mais on veut pas un carrelage hyper luxe, machin et tout. Un simple carrelage propre, c'est bon. » Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on aurait besoin d'investir dans ce qui va pas rester, dans ce qui va disparaître? Et puis, il y a aussi la solitude. Ce temps que nous prenons pour nous retrouver seuls et face à face avec Dieu. Et puis, il y a aussi la soumission. Est-ce que nous avons appris comme discipline à nous soumettre les uns les autres? Je vais revenir sur les uns les autres tout à l'heure. 40 fois la Bible dit les uns les autres. Mais en général, comment? Tu as quelque chose à me dire, toi, de ma vie? Mais t'es qui pour me dire comment je dois faire ma vie avec le Seigneur? C'est compliqué parfois dans l'Église. Il y a aussi des disciplines qui sont collectives. La confession. J'ai souligné hier soir que nous avons perdu cette notion de confesser ensemble notre péché les uns aux autres, mais confesser au cours du culte aussi. Bien sûr, on ne veut pas avoir une liturgie qui s'approche de l'Église protestante ou catholique. Mais combien de fois dans nos églises évangéliques prions-nous ensemble notre Père Céleste? D'ailleurs, remarquez bien, je disais que notre sanctification à l'image de Christ se fait dans une communauté, pas tout seul. Jésus, quand on lui a dit « Apprends-nous à prier », il a dit « Notre Père, pas mon Père ». On va revenir aussi là-dessus tout à l'heure. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand est-ce que vous avez eu la dernière fois la possibilité de dire ensemble « Père, pardonne-nous. » Il n'y a pas des choses dans l'Église qui ont besoin d'être confessées, qui ont besoin d'être mises en ordre? Oh, peut-être des toutes petites choses, hein. Je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas dans l'Église. Je suis en train de dire on peut prendre conscience qu'on a besoin de confesser ensemble. La solitude, la soumission, le service. Ah, le service, ce n'est pas simplement « Ah bon, hier soir, il fallait ranger les tables, charger... » Non, non. Le service, c'est une discipline qui nous permet de grandir à l'image de Christ. Jésus s'est fait le serviteur par excellence de tous. Je continue. Les disciplines spirituelles rendent visibles nos valeurs spirituelles. Elles sont à la fois spécifiques et concrètes. Elles sont autant de vecteurs qui nous rendent attentifs à la grâce de Dieu. Elles s'imposent à nous, à notre propre discernement ou par le conseil d'autrui, comme pertinente pour la formation continuelle dans la voie de l'esprit. Nous avons besoin de cela pour grandir. C'est l'outil que Dieu, le vecteur que Dieu utilise pour nous former à son image. Et le focus, la raison d'être des disciplines spirituelles, c'est de développer notre piété personnelle. Le deuxième vecteur que Dieu utilise, ce sont les circonstances spirituelles. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On n'aime pas les circonstances difficiles. On n'aime pas les épreuves. On n'aime pas les maladies. On n'aime pas les difficultés financières. Frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. L'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Et puis, il y a ce verset qu'on a recité hier soir. Toute chose concourt au bien de ceux qu'aiment Dieu. Donc toutes nos circonstances, sont utilisés par Dieu pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Magnifique. Et l'objectif et le focus de cette discipline, de ces circonstances spirituelles, c'est l'obéissance, la mort à soi, la foi et le fruit de l'esprit qui se développe dans notre vie. Et troisième et dernier vecteur pour nous former à l'image de Christ, et c'est ça notre sujet aujourd'hui, ce sont les relations spirituelles. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et ça a des conséquences. Cette volonté de Dieu d'avoir des hommes, des femmes qui entrent en relation avec lui et qui lui ressemblent. Ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes faits pour la relation avec Dieu. Notre éternité sera en pleine relation et en pleine conscience de Dieu face à lui, le voyant tel qu'il est, face à face. Mais cette configuration à l'image de Christ fait que nous sommes des êtres relationnels. Et quelqu'un nous faisait observer hier soir que puisque Dieu est un être relationnel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'il y a cette existence n'est que par la relation au cœur du Seigneur, ça se retrouve en nous. Nous sommes spirituels et relationnels. Ça veut dire que nous sommes faits pour avoir des relations spirituelles avec Dieu et avec nos frères et sœurs en Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à d'autres qui soient capables de le transmettre à leur tour. Et c'est ça le principe. Paul a transmis, c'est basé sur le principe de la relation. C'est parce qu'il y a eu des relations entre des chrétiens que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Parmi les différentes relations spirituelles, il y a l'Église, il y a le couple, il y a la famille, il y a les amitiés, il y a le mentorat spirituel qui développe une constellation de relations mentorales au sein de laquelle une personne, le protégé, cherche à devenir de plus en plus comme Christ et s'entoure de mentors qui le guident dans ce processus. Il y a les directeurs spirituels, il y a les coachs, il y a tous ceux qui nous forment d'une manière ou d'une autre. Il existe une constellation de relations spirituelles. Je disais hier, quelqu'un qui est mort et qui vous lisez son livre et ce livre vous bouleverse, vous influence. C'est une relation spirituelle. Le pasteur, les amitiés, la discipline, tout accompagner quelqu'un, la relation d'aide, tout ça, ce sont des relations spirituelles qui nous aident à grandir à la ressemblance de Christ. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous faire observer. À chaque fois que Paul a parlé d'instructions relatives à la formation de disciples, à la transformation spirituelle, ça n'est jamais donné à des personnes privées. C'est toujours adressé à des individus en communauté. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens. Ceux qui se sont, notre texte de base, ceux qui se sont consacrés à Jésus-Christ et qui, dans la communion vivante avec lui, ont été appelés à mener une vie sainte en union avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on va examiner ce « en communion les uns avec les autres ». La prédication n'a jamais été et ne sera jamais le seul moyen par lequel Dieu nous transforme à l'image de Jésus-Christ. La prédication y contribue. Les études bibliques en petits groupes, l'école du dimanche ou même la formation individuelle ne suffisent pas non plus à faire grandir les chrétiens parce qu'on ne grandit pas uniquement avec des connaissances bibliques. Nos relations spirituelles sont donc un outil entre les mains de Dieu pour nous faire grandir à l'image de Christ. Les relations spirituelles nous offrent l'occasion de faire l'expérience de la puissance divine pour nous efforcer d'atteindre la maturité en Christ. Depuis que Dieu est descendu sur les croyants à Jérusalem, au début de l'Église, Dieu a transformé les âmes des croyants individuels dans la communauté. À plusieurs reprises, Paul insiste pour que nous puissions faire l'expérience ensemble de la grâce et de la puissance divine. Rappelez-vous ce que Paul dit, 1 Corinthiens 12, « Vous êtes le corps de Christ. Les uns sont l'oreille, les autres sont les, le doigt de pied. » Et c'est l'une des caractéristiques les plus significatives de notre identité en Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Nous ne pouvons pas dire « Moi, je suis chrétien, mais j'appartiens pas au corps de Christ. » C'est impossible. La vie chrétienne ne peut donc pas être vécue dans l'isolement. Non seulement elle ne peut pas être vécue dans l'isolement, mais il y a une dimension de notre vie chrétienne qui ne s'obtient que collectivement, que communautairement. Regardez par exemple ce texte que moi j'aime beaucoup. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur. Vous remarquez que j'ai sauté quelque chose. Avec tous les saints. Ça veut dire que si moi je veux comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ et connaître cet amour qui surpasse toute connaissance et être rempli de toute sa plénitude, c'est avec les autres. C'est avec les autres. Du coup, il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de progression sans relation. Nous ne progressons pas à l'image de Christ dans l'isolement. Nous progressons dans les relations. Et je crains que, en tant qu'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, 21e siècle, nous soyons trop impressionnés ou imprimés par la vision séculière du monde. Le monde qui nous entoure dit « C'est toi la personne la plus importante. Tu as l'autorité sur toi-même. C'est toi qui gères ton monde. » Et je crois que nous avons une conception de la vie chrétienne qui est plus proche de l'individualisme, de la culture ambiante, que du communautarisme, dans le sens positif, hein, que Jésus et l'apôtre Paul voulaient. Il y a un exemple, et je ne vais pas faire de reproche ce matin, comprenez-moi bien, à ceux qui ont choisi les chants, mais presque tous les chants, sinon tous ce matin, disaient « je ». En fait, c'est fou. Notre louange, ça devrait être « nous ». Nous, Seigneur. Parce que qu'est-ce que dit la Bible ? Aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous, encouragez-vous, édifiez-vous, honorez-vous, supportez-vous, veillez les uns sur les autres, pardonnez. Combien de fois il y a les uns les autres dans la Bible ? Dans le Nouveau Testament. 40 fois. 40 fois pour nous rappeler que nous sommes des chrétiens inclus dans l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ est le corps de Christ. Et nous avons besoin de développer une vision communautaire de notre place dans l'Église et de notre croissance en Jésus-Christ. Première question pour ce matin. Avons-nous perdu collectivement la vision que notre vie chrétienne est intégrée dans le corps de Christ? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à cette question. Le deuxième point que je veux traiter avec vous, c'est qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Paul l'explique très très bien. Paul a mis en place un principe. Il illustre ce principe dans 2 Corinthiens 1. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement. C'est pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Paul, c'est un gars qui avait dit, finalement, on peut partager ce qu'on vit et ce qu'on échange les uns les autres. Aujourd'hui, moi, je suis consolé et je peux en consoler un autre, qui lui-même pourra consoler parce qu'il a été consolé. C'est la notion de partage. C'est le fait que nous avons besoin des uns des autres pour grandir. Besoin d'être conscient et de prêter attention à la place de Christ dans la communauté. Nous avons besoin de faire l'expérience de la communauté dans un sens biblique et intime. Et l'enseignement de Paul, c'est que nous avons besoin les uns les autres pour grandir. Et peut-être vous allez dire, ouais, mais tu sais, Alain, ce truc, c'est bien, c'est théorique, on comprend, Paul l'a dit, c'est dans la Bible, mais moi, j'ai déjà fait des mauvaises expériences dans l'Église. Hein. Une fois, j'ai voulu partager quelque chose à quelqu'un, et puis la personne m'a dit, ah ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait, t'as qu'à prier, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Et ou alors, vous êtes venu à quelqu'un, vous aviez envie de partager un truc qui vous pèse un peu, puis la personne a dit, ouais, je vais prier pour toi, salut. D'ailleurs, quand on dit en général « je vais prier pour toi », c'est qu'on veut bien rester à distance du problème de la personne. Il faut se méfier avec ce « je veux bien prier pour toi ». C'est vrai. C'est vrai, les relations dans l'Église sont pas faciles. Moi, j'ai été baissé dans mon Église. Mais je vous invite à réviser votre point de vue sur ce principe bien connu. Vous pouvez pas changer les autres. Ils vous ont bousculé quand vous avez voulu parler, vous avez voulu essayer d'avoir une relation avec un frère, une sœur, et puis vous vous êtes dit, ça s'est pas bien passé. Ça fait rien. Vous pouvez pas changer le frère ou la sœur, mais vous pouvez décider de partager ce que vous avez reçu avec Christ. Vous pouvez décider qu'à la fin du culte, vous allez rendre témoignage de quelque chose que vous avez vécu dans votre semaine avec Dieu. Je disais hier aux hommes que c'est plus facile de parler de la tondeuse à gazon ou de la dernière bagnole ou du dernier match de rugby de l'équipe de France que de dire, écoute, moi je voudrais te raconter un truc. Moi je vais vous raconter un truc. Cette semaine, c'est un truc qui a marqué ma semaine. Je pourrais vous raconter plein de choses où j'ai vu l'intervention de Dieu dans ma vie. Et en fait, je suis convaincu qu'échanger ce que nous vivons avec Christ et nous le raconter aux uns les autres, ça nous fortifie, ça nous aide à voir Christ à l'œuvre. Des fois, on dit, on a l'impression, on est là sur la chaise. Est-ce que lui, est-ce qu'elle a vu Christ? Est-ce que moi, je suis le seul à avoir vu? Peut-être ma semaine était difficile, j'ai pas vécu grand-chose. Et quelqu'un à côté peut dire, mais moi, alors je vous raconte. J'ai dû aller faire des courses. J'étais pressé, je roule un peu vite. Et puis, dans un village, il y a la route principale tourne un peu vers la droite, comme ça, et moi, je devais prendre une rue à gauche. Et alors, je me suis dit, bon, je vais pas perdre de temps, je vais pas m'arrêter, là, je regarde un peu à droite, je vois que devant le camion, il n'y a pas de voiture, donc le temps que met une voiture pour venir, je peux tourner, je mets ma flèche, je tourne, et il y avait un vélo. Ah ouais, un vélo, ça roule pas à la vitesse d'une voiture. Et le gars m'a vu, m'a évité, il est passé tout près de moi. Et j'ai dû dire, Seigneur, je te remercie. Et je vous assure que ça m'a fait ma semaine aussi, ça, de pouvoir remercier le Seigneur pour sa protection. J'aurais pu blesser un homme. Je vous assure qu'en ce moment, je pense que si un accident m'était arrivé, ça aurait été très difficile pour moi de gérer toutes les émotions, les conséquences. Mais surtout, pensons à cet homme, quoi. J'ai fait une faute en conduisant. Mais Dieu a veillé. Passez juste à côté de lui. Est-ce que vous vivez des choses comme ça? Magnifique. Où Dieu intervient. Où Dieu est présent. Et c'est de ça dont on a besoin dans l'Église. C'est de dire la gloire de Dieu et nous raconter les choses. Alors, Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez commencer à dire, moi, je veux faire quelque chose pour que les relations s'approfondissent dans l'Église. Et qu'est-ce qu'on va faire? Que puis-je faire pour développer des relations saines dans l'Église? Eh bien, je vous propose 5 petits points très précis. Le premier, c'est soyez intentionnel. Je suppose que vous faites tous un effort pour venir tous les jours au culte. Eh bien, rien que ça, vous êtes une bénédiction pour les autres. Parce que quand il y a la réunion de prière et qu'il n'y a plus que 2 pelés et 3 tondus, ceux qui sont venus disent « Ah, si on était plus nombreux, ça serait quand même vachement plus encourageant, hein ?» Quand vous décidez de pas venir, vous n'êtes pas en train de servir votre communauté. Alors, je dis pas que vous ne pouvez pas avoir une bonne excuse pour ne pas venir à la réunion de prière. Mais il faut quand même qu'on réfléchisse à nos motivations, à notre participation communautaire. Et puis, souvent, je sais pas comment c'est pour vous, mais souvent à la fin du culte, c'est « Bonjour, ça va, ouais, ah, il y a le rôti qui tourne, bon, ben, on se verra une autre fois. » Donc, c'est sûr que c'est pas forcément à la fin du culte qu'on a la possibilité de mettre en place des relations profondes. Et on devrait réfléchir à quels autres moments dans la vie de l'Église on va pouvoir avoir des relations profondes. Est-ce qu'on doit participer à un petit groupe? Est-ce qu'on doit décider qu'à quelques-uns, on se rencontre pour la prière, même si c'est en dehors des structures définies de l'Église? J'ai raconté hier soir que mon beau-frère, pendant 18 ans, ils se sont réunis à 3 frères. Un soir de la semaine, en rentrant du boulot, ils se sont arrêtés sur un parking pour prier pour leurs enfants. Leurs enfants avaient du mal à rejoindre Christ. Et les gars, pendant 18 ans, ils ont prié pour leurs enfants. Et aujourd'hui, mon beau-frère est à la retraite, et avec un de ce groupe de 3, ils font un duo. Toutes les semaines, ils vont marcher ensemble, ils vont prier ensemble. Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez faire cela? Est-ce que vous êtes prêts à prendre du temps les uns avec les autres, à vous inviter, à trouver des trucs? Il faut qu'on soit plus spontané et plus imaginatif. Parce que Tim Keller dit « Nous vivons dans une culture où les intérêts et les désirs de l'individu priment sur ceux de la famille, du groupe ou de la communauté. En conséquence, un pourcentage élevé de personnes veulent atteindre une croissance spirituelle sans perdre leur indépendance vis-à-vis d'une église ou de toute institution organisée. Il n'y a aucun moyen de croître spirituellement sans s'impliquer profondément dans une communauté d'autres croyants. Alors soyez intentionnels pour vous impliquer dans l'Église. Le deuxième point, c'est maintenez une attitude aimante. J'ai dit qu'on a parfois des relations compliquées dans l'Église. Pourtant, je vous rappelle ce que Josué nous a lu, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Cet amour se révèle dans notre façon de parler, d'agir, de nous intéresser aux autres. Et si vous voulez avoir des relations profondes, il vous faut avoir une attitude aimante. Et vous devez choisir cette attitude. C'est une volonté, c'est un désir, c'est quelque chose qu'on a décidé. Ensuite, je vous propose de chercher à poser des actes d'amour pour développer les relations spirituelles profondes dans l'Église. Tout ce que vous faites pour les autres dans l'Église doit être caractérisé par l'amour. Mais d'abord, vous devez faire quelque chose. Parce qu'on dit « oui, moi j'aime les frères. Oui, moi j'aime les sœurs. » Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ça suffit pas de proclamer l'amour. Il faut le manifester. J'ai dit le simple fait d'être présent, de venir, c'est un témoignage d'amour et d'affection que vous portez. Mais il existe de nombreuses occasions d'être en relation en dehors des activités de l'Église. Est-ce qu'il faut que vous preniez du temps pour jouer ensemble? Du temps pour aller à un match de foot ensemble? Du temps pour aller faire une balade? Du temps pour donner un coup de main pratique? Nous avons besoin de mettre l'accent non seulement sur le fait d'avoir une attitude aimante, mais sur toutes ces manières que nous pouvons de pouvoir démontrer notre amour les uns pour les autres. La solidarité, la préoccupation, les nouvelles, les messages qu'on peut envoyer, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de poser des actes d'amour. Le point suivant, c'est prononcer des paroles d'amour. La langue a le pouvoir de vie et de mort. C'est une question clé dans la vie de l'Église. Quand nous parlons des autres chrétiens, quand nous parlons des autres églises, comment nous le faisons? Est-ce que nous le faisons en les mettant à mort, ou est-ce que nous le faisons en cherchant à parler d'une manière qui encourage, qui témoigne de notre amour et qui veille à avoir des bonnes relations? Nos paroles devraient être caractérisées par l'amour et devraient être une démonstration de notre amour. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Nos paroles contribuent à développer des relations profondes et des relations d'amour dans l'Église. Et le cinquième point que puis-je faire pour... Ne dites pas « moi je fais ce que je veux et je me débrouille ». Ah non, pardon. Ne dites pas « moi je ne vois pas ce que je peux apporter ». Excusez-moi. Souvent, il y a des gens qui disent « ouais, mais dans l'Église, moi j'ai rien à donner, j'ai pas de don, j'ai rien de truc, j'ai rien de spécial, etc. » Ah, quand j'en vois certains, eux, ouais, c'est eux qu'il faut encourager, hein, c'est eux qui ont la capacité. Si vous avez tendance à vous censurer, à considérer que vous n'avez rien à apporter à l'Église, en estimant que vous n'avez pas de don, que vous n'avez pas de capacité particulière, eh ben, on va remettre l'Église au milieu du village. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit quand il était avec ses disciples? Jésus appela un petit enfant et les plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, si on se considère comme des enfants, est-ce que on a le droit de dire qu'on n'a rien à apporter? On est tout simple, on vient tel qu'on est. Vous vous rappelez le début de mon message? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose dans l'Église à des relations profondes qui bénissent les uns les autres en étant simplement qui on est? Et je disais, racontez ce que vous vivez avec Christ. Si chacun, à la sortie du culte, pouvait dire à un autre, « Cette semaine, j'ai vu Dieu à l'œuvre là et là. » Croyez pas que ça encouragerait tout le monde? Si vous pouviez raconter ce que vous avez trouvé dans la Bible. Ah, tu sais, j'ai lu un tout petit passage, mais il y a juste un truc là. Ça, je me suis dit, j'avais jamais fait attention à ça. Pas besoin de faire des grandes choses pour approfondir nos relations dans l'Église. Par exemple, j'ai raconté à plusieurs reprises que nous passons avec ma femme par un truc qui est pas très confortable. Ça faisait des années qu'on voulait acheter une maison beaucoup plus petite, un terrain beaucoup plus petit pour préparer pour les vieux jours, vous savez, tout de plein pied, la salle de bain où on peut, si on a besoin un jour, d'un déambulateur. Et on a prié pour ça. Et miraculeusement, on peut dire miraculeusement, on a pu acheter une maison fin juillet. Miraculeusement, on a pu avoir un pré-relais, alors que juste avant que tout bascule au mois d'août. Et nous avons mis, et moi, mon idée, c'était, on vend une maison grande, on en achète une plus petite, et entre les deux, on fera les travaux avec le différentiel avec de la vente de la maison plus grande. Donc, on a mis notre maison en vente mi-août. Et depuis mi-août, on a eu 3 visites. On n'a pas d'acheteur. Ça fait quand même, de août à fin mars, ça fait quand même long. Et je vous assure que J'ai du mal à pas me faire du souci pour ça. Et j'ai dû travailler pourquoi j'ai peur. Et je suis arrivé à la conclusion que j'ai peur parce que je doute de la bonté de Dieu. Et je doute de sa souveraineté. Et à deux, trois occasions, j'ai témoigné de cela. Et il y a des gens qui m'ont dit, « Oh, ça nous encourage, Alain, que toi, tu nous montres comment tu vois ça et comment... » C'est drôle, hein. Moi, j'aurais plus pensé que ce que j'avais à partager était plutôt, c'est dur, hein, de pas trouver d'acheteur pour sa maison, de pas savoir comment on fait les travaux et tout ça. Moi, ça me dépasse un peu, en plus, hein. Mais les gens m'ont dit, ça nous encourage. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Alors, ne dites pas, je n'ai rien à dire. Ne dites pas, moi, je peux pas contribuer à des relations profondes dans l'Église. Tout le monde peut le faire. Parce que, en plus, n'oubliez pas, il y a diversité de dons et c'est le même esprit qui donne des dons à tout le monde. Alors celui parmi vous qui dit « Moi, je peux rien amener à l'Église », faut faire attention là parce qu'on va faire menteur le Saint-Esprit. Hein. Alors une question que je vous laisse, elle n'est pas là ma question. Non, elle n'est pas là. Bon, ben, c'est pas grave, on la retrouvera à la fin. Est-ce que tu t'es mis en retrait? Ou est-ce que tu t'es distancié des relations spirituelles dans l'Église? Est-ce que tu t'es mis en retrait dans l'Église? Tu viens au culte, tu viens à la réunion de prière, mais faut pas qu'on t'embête, hein. Faut pas qu'on te pose de questions. Tu gardes tes distances. Je vais conclure en revenant à mon texte de base. Ceux qui se sont consacrés à Jésus ont été amener à mener une vie sainte en union avec tous les chrétiens. Nous avons dégagé deux choses. Nous sommes appelés une vie sainte, nous sommes en communion les uns les autres. Mais avant de vous laisser un temps de silence avec plusieurs questions, je ne peux pas terminer ce sujet de nos relations profondes dans l'Église sans aborder l'importance que la qualité de nos relations internes à l'Église ont comme importance pour les gens du dehors. Parce que Jésus a donné le thermomètre aux pas encore chrétiens pour mesurer est-ce que l'Église de Wittenheim est fiable? Est-ce qu'elle représente et est-ce qu'elle porte le message de l'Évangile? Ou est-ce que c'est une représentation ou une formule un peu... Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit ? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le plus grand témoignage qu'une Église peut rendre à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, c'est d'avoir des relations profondes d'amour qui reflètent la présence de Christ. Alors je vous laisse avec trois questions. Ai-je compris que ma sanctification, ma transformation à l'image de Jésus passe par de vraies relations spirituelles avec les frères et sœurs? Est-ce que vous venez au culte pour faire le plein une fois par semaine? Si c'est ça, ça marche pas. D'abord parce que on fait pas le plein une fois par semaine, et puis on revient le dimanche, ça c'est genre picou, ça marche pas. Et ça ne suffit pas. Vous allez être formé à l'image de Christ par des relations spirituelles. Ai-je pris mes distances? Suis-je en retrait par rapport à l'Église? Ou est-ce que je veux contribuer à développer des relations spirituelles profondes? Je vous laisse un temps de silence avec ces trois questions. Je souhaite que le Seigneur vous bénisse.